Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous.
Des appels au génocide.
Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain.
Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé.
Loïc, bonjour.
Bonjour Benoît.
Dis-moi ce que tu penses
si
de la...
Si tu peux faire escale à Vancouver, si tu vas au Japon, tu peux faire escale à Vancouver. Hein?
Ouais.
Ça te coupe 5 heures de vol facilement.
Mm-hmm.
C'est plus raisonnable.
Ah oui, ça me tente.
Je te dis ça en passant.
Ouais.
Et moi, je dois dire que chaque fois que j'ai fait ce vol-là, j'ai trouvé que c'était très agréable.
C'est
long, 14 heures, c'est vrai, mais ça passe assez bien.
En première classe.
Oui, payé par, bien sûr.
Non, mais excuse-moi, là, mais dans le département bétail, là, dans la classe bétail, oui. Là, t'es pas vrai, 14 heures, les gens vont faire des crises cardiaques puis ils vont développer toutes sortes de maladies.
Je dois admettre que j'avais été surclassé, puis j'avais été mis dans une meilleure classe, un peu.
Loïc Tassé, tu peux rien me cacher. Je le savais.
Mais c'était pas la première, mais c'était pas la classe à faire.
Non, c'est juste un petit oomph. Mais nous, quand on voyage, on se prend les bancs où on peut, il y a plus d'espace pour les jambes, on peut réserver ça. C'est comme 50 piastres de plus pour le siège, au lieu d'avoir une première classe où ils font des massages de pieds. Quoique.
Mmh. C'est ça. Mmh. Ou si tu veux l'ancienne classe économique, tu prends la classe premium.
Ouais.
Ça ressemble à ce que c'était avant.
Tu peux
faire ça aussi.
Hey, t'as ça pour tes jambes.
Non, le reste, c'est... Je suis d'accord avec toi, ils traitent les gens comme du bétail, puis c'est pas drôle.
Dis-moi ce que tu penses de la Cour pénale internationale, Loïc.
Ah, il faut en parler, parce que c'est vraiment très important. Et il faut la différencier de la Cour internationale de justice, qui, elle, concerne les États, et l'Afrique du Sud a déposé plainte contre Israël pour génocide dans celle-là. La Cour pénale internationale, elle s'adresse aux individus, et ce qui est arrivé, c'est que le procureur de cette Cour a déposé devant les juges, trois juges de cette Cour, il a déposé une demande de mandat contre Benjamin Netanyahou, et contre trois dirigeants du Hamas, pour des charges un peu différentes, mais pratiquement les mêmes, c'est des crimes de guerre. Pour Netanyahou, entre autres choses, parce qu'il aurait cherché à affamer les gens à Gaza, et parce qu'il aurait assassiné des civils. Il pourrait y avoir d'autres causes. Et bien entendu, pour le Hamas, à cause des crimes de guerre qu'ils ont commis le 7 octobre, etc. Et donc, c'est quelque chose qui secoue énormément l'opinion publique en ce moment en Israël, et un peu à travers le monde aussi. Il y a Joe Biden qui a dit qu'il trouvait que c'était scandaleux, ce genre d'accusation.
Il n'y a pas d'équivalence.
Ils sont encore portés, Romain.
Mais il n'y a pas d'équivalence entre la Hamas et Netanyahou, là. Qu'on pense qu'on veut, il n'y a pas d'équivalence. Il y a un groupe terroriste là-dedans, puis il y a un chef d'État qui a décidé de répliquer à l'attaque du 7 octobre.
Oui, mais comme le dit très bien un vieil article du Code civil, nul ne peut se prévaloir de la turpitude Nul ne peut se prévaloir de la turpitude des autres pour excuser la sienne propre. En d'autres termes, certainement que le Hamas a commis des choses épouvantables, mais Netanyahou aussi affamer une population, c'est pas quelque chose non plus que tu dois faire. Et tu remarqueras que c'est pas l'ensemble du gouvernement qui est accusé pour le moment, etc.
Mmh.
Donc il y a un problème effectivement, et tu as raison. Le Hamas est une organisation terroriste. C'est un gouvernement théocratique, totalitaire, qui règne par la terreur. On n'est pas là, ou avec Netanyahou.
Mm.
C'est pas un gouvernement théocratique qui règne par la terreur.
Non, les femmes,
même si dans son cabinet,
les femmes ont des droits.
Qui sont vraiment pas...
Les femmes ont des droits en Israël. Les gays ont des droits en Israël.
Absolument.
Avec la Hamas, ils ont des droits d'être lapidés ou d'être enterrés vivants.
Le problème en Israël, c'est que les Palestiniens n'ont pas de droits et qu'eux sont traités comme des citoyens de seconde zone. Ça, c'est une autre question. Puis, il y a l'occupation de la Cisjordanie, etc.
Mm.
Mais bon, cela étant dit, ça pose un sacré problème en Israël, ça pose un sacré problème dans le monde, parce que c'est pas des clowns là, à la Cour pénale internationale, et ils font pas ça simplement pour faire parler d'eux, surtout pas. Et il y a la France, par exemple, qui s'est rangée derrière la Cour internationale de justice en disant non, on appuie la Cour internationale la Cour pénale internationale, pardon, on l'appuie. L'Italie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, non, trouvent ça scandaleux. Mais ça part toute une réflexion, ça, en Israël et dans le monde.
Mmh.
Et encore une fois, On va voir où ça va aller, mais c'est la première fois qu'un État démocratique est accusé de ça, qu'un gouvernement démocratique est accusé de ça, sur, je pense, 52 cas que cette Cour a jugé depuis son existence depuis une vingtaine d'années. Il y a une cinquantaine de dirigeants africains qui sont là-dedans, et puis 3-4 Européens, même pas. C'est tout. Puis c'est des petits pays, etc. Alors, qu'Israël soit jugé pour ça, oui, c'est très grave. Et, tu sais, il y a des grandes dissensions à l'intérieur même du gouvernement israélien. On sait que il y a des gens qui menacent de quitter ce gouvernement parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que fait Netanyahou. Mm-hmm. C'est, pour Israël, c'est très, très grave et ça va contre. Si tu veux, c'est très difficile à renverser au niveau propagandiste pour Israël, ce qui est en train de se produire là. C'est vraiment à surveiller. Encore une fois, je pense pas que ces accusations soient des accusations qui soient lancées en l'air, que ce soient des accusations gratuites du tout. Puis je ne place pas sur un pied d'égalité le gouvernement israélien et le Hamas, mais les deux ont commis des atrocités. Et les atrocités de l'un n'excusent pas les atrocités de l'autre. Ça, c'est clair.
Jean-Philippe, on a les images du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que là, tu veux revenir sur la mort d'Ebrahim Raisi, qui est mort dans un accident d'hélicoptère avec le ministre des Affaires étrangères.
C'est rare que je me réjouis de la mort de quelqu'un, mais ça me réjouit. C'est un ultra-conservateur. C'était le béni oui-oui, c'était la marionnette du guide suprême et de l'Iran. Monsieur Khamenei. Donc, c'était pas un enfant de cœur du tout. On l'appelait le bourreau de Téhéran parce que dans les années 80, il avait massacré littéralement tous les gens qui s'opposaient au régime iranien. Il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de fuir. Donc, c'est pas quelqu'un qui est particulièrement recommandable. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses maintenant à la politique iranienne? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un an, il y avait plein de manifestations à travers tout l'Iran. Ça s'est poursuivi. Il y a constamment des gens qui se font arrêter, des femmes qui courageusement luttent pour pas porter le voile et qui se font arrêter et filmer. Les gens filment ça par la police. Il y a énormément
arrêter, torturer, violer, tuer. Là. C'est pas juste arrêter, hein, Loïc. On parlait de 26 000 personnes exécutées, enfants, femmes et enfants inclus dans tout ça. C'est un monstre, Raisi. Là. C'est un vrai monstre.
Il était au service de Khamenei. Donc c'est pour ça que ça changera pas tant de choses. Pour lui qui était vraiment le cerveau derrière tout ça, c'est Khamenei, le guide suprême. Ouais. C'est pour ça que je pense pas que ça change beaucoup, mais si je garde un mince espoir que ça donne un sursaut, un élan à nouveau à l'opposition dans la population iranienne. Encore une fois, ce gouvernement des mollahs est exécré à l'intérieur même de l'Iran. Et c'est un gouvernement qui dont le temps est compté, je pense bien.
OK. Est-ce qu'on a les images, Jean-Philippe? On les a pas. On les avait ce matin. Je sais pas pourquoi on les a pas là, mais on a les images du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont une minute de silence à la mémoire de Raisi, ce qu'ils ont jamais fait pour Mahsa Amini, 22 ans, tué à l'automne 2022 parce qu'elle portait mal le voile.
C'est scandaleux d'avoir une minute de silence pour cette ordure, pour ce tortionnaire, pour ce tyran. On ne garde pas de minute de silence pour ce genre de personne. Et si j'avais siégé là, je me serais levé avec quelques mots, paroles bien senties, et je serais sorti pendant la minute de silence. Il n'y a pas de minute de silence à tenir face à des ordures pareilles. Aucune. Alors, personnellement, je peux dire oui, c'est pour sa famille, pour lui, c'est terrible, mais même pas étant donné le nombre de personnes dont il est directement responsable de la mort. En fait, c'est le bas exécutant c'est l'exécutant des basses œuvres du guide suprême. Moi, j'ai pas du tout je pense pas qu'on doive tenir une minute de silence pour des bourreaux pareils. Okay. C'est scandaleux que ce soit fait comme ça.
On se quitte sur le procès de Donald Trump. On parlera de Taïwan demain. Mais Donald Trump, le procès continue.
Ben, il continue, mais il va se terminer. Tu sais que finalement, la défense a pu présenter seulement deux témoins. Il y avait 22 témoins au total. Donc, le procureur en a présenté une vingtaine. Et hier, il y a eu deux coups de tonnerre absolument extraordinaires, parce qu'il y avait Cohen qui était cuisiné par le procureur, pas par le procureur, par la défense de Trump. Et il a été obligé d'admettre, Cohen, qu'il avait volé à l'organisation 30 000 $ dans un sac brun, en plus. Il y avait 50...
Une belle gang, hein?
50 000 $ à une compagnie. En fait, il n'en a remis que 20 000. Ça apparaît mal, ça apparaissait mal, c'est incroyable. Bon, OK. Deuxième chose qui est arrivée, c'est que Trump a fait témoigner quelqu'un. Il a fait témoigner quelqu'un qui s'appelle Robert Costello, qui est un conseiller de Trump, etc., et qui aurait rencontré Cohen. Et alors Costello dit, « Ah, oui, mais Cohen m'a dit que Trump ne savait rien des paiements à Stormy Daniels. » Oh, c'est extraordinaire. Oui, mais ensuite, on s'est rendu compte que le bonhomme faisait un témoignage assez particulier. Chaque fois que le procureur faisait une objection, il roulait des yeux, il sacrait. Puis à un moment donné, le juge a dit, « OK, les jurys, sortez là. Sortez de la cour, faut que je parle, faut que je dise quelque chose à Monsieur Cohen. » Puis il a dit, écoutez, là, c'est pas du tout acceptable ce que vous faites là. Chaque fois que je rends une décision sur le banc, parce que évidemment, je demande que certaines choses soient retirées, vous protestez, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Et là, Cohen le regarde de haut avec un petit air de mépris. Alors le juge machin dit, OK, les journalistes, sortez. Sortez. Il a fait sortir les journalistes, et on le sait par des témoignages qu'il y a eu par après. Il a dit à ce témoin, Costello, ne faites plus jamais ça. Ne me regardez pas avec mépris comme ça, parce que si vous continuez, moi, je vais demander à ce que votre témoignage en entier soit retiré. C'est tout. C'est ça qui va arriver. Alors, vous cessez de me mépriser, vous lâchez vos grands airs, vous cessez de rouler des yeux, de jurer, je ne veux plus ça. Et donc, ensuite, tout le monde est revenu dans la salle. Et on s'est mis à cuisiner Costello aujourd'hui, entre autres. Et son témoignage a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'impact qu'il aurait pu avoir. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il va y avoir les plaidoyers finaux de la défense et de la poursuite. Ça devrait durer une journée. Puis ensuite, on va attendre la décision du jury. On va voir ce que le jury va décider dans ce procès. J'ai très hâte de voir.
Bon, ben la suite du psychodrame demain à même heure. Loïc Tassé, merci. Salut.
Salut Benoît.